Bienvenue à ce dernier message de notre série « Suivre Jésus ». On a eu un début d'année extraordinaire ensemble dans la parole de Dieu et nous sommes assez fébriles parce que nous sommes à une semaine d'un des plus gros week-ends de l'année à Nouvelle-Vie, le week-end de Pâques, bien sûr. La fin de semaine prochaine, nous allons avoir 7 célébrations à partir du vendredi, 2 le vendredi, samedi soir à Nouva-Vida et 2 à Longueuil, 2 à Nouvelle-Ville-Longueuil, 2 à Nouvelle-Ville après 7 célébrations en tout. Nous attendons 7 000 personnes à Nouvelle-Vie le week-end prochain. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant pour dire, Seigneur, merci pour ce que tu fais au Québec en ce moment. Allez, allez, ceux qui prient depuis des années, qui disent, Seigneur, amène la moisson, elle est là. On va avoir une fin de semaine extraordinaire. J'invite vous et ceux qui suivent par Facebook Live, venez vous joindre à nous le week-end prochain. Vendredi Saint, on a une soirée extraordinaire. Deux fois la même célébration à 16h30. L'année passée, les deux étaient pleines parce que nous avons tous les amis des églises autour. C'est un rassemblement de l'Association chrétienne pour la francophonie, de l'ACF. Alors, il y a des chrétiennes partout à travers le Grand Montréal qui s'en viennent. Alors, il y en a beaucoup qui ont congé le vendredi après-midi, vendredi Saint, vendredi du week-end de Pâques. Alors, 16h30, c'est une super belle heure. Et aussi à 19h30, également, aux deux réunions, on prépare quelque chose de magnifique pour vous. On va avoir un écran géant. On va avoir un écran géant d'une dizaine de mètres avec toutes sortes de présentations visuelles, nouvelles, témoignages de vie transformée. Vendredi Saint et dimanche matin, témoignages qu'on n'a pas attendu à Nouvelle-Vie. On prépare pour vous toutes sortes, également la communion ensemble, la chorale prépare des spéciaux, messages de feu le vendredi saint. Le vendredi saint, c'est entre croyants, c'est tellement important. Tous les chrétiens viennent ensemble vendredi saint dans la présence du Seigneur. Il va y avoir une super activité pour vos enfants également. Et le dimanche matin de Pâques, nos deux grandes célébrations ici sont totalement préparées et priées et jeûnées afin que vous puissiez inviter quelqu'un. C'est le dimanche d'évangélisation de l'année. Vous savez, il y a dans l'ADN religieux des Québécoises, des Québécois, quelque chose qui, on va à l'église à Pâques. Si vous vous promenez dans les quartiers, le week-end de Pâques, des églises qui sont, églises traditionnelles qui sont vides toute l'année, tout à coup, les stationnements sont pleins dimanche de Pâques et vides la semaine d'après, parce qu'il y a quelque chose dans l'éthos religieux des Québécois et des gens autour de vous, que si vous les invitez, sont prêts, Chantal et moi, on a toute la famille au complet qui vient à la deuxième réunion, qui va à dîner à la maison par la suite pour Pâques. Alors, inviter des gens, on prépare tout un dimanche matin avec l'évangélisation et en même avec un message illustré. Vous savez qu'à tous les ans, à Pâques, on y met le paquet. J'ai un message illustré. Il y a quelque chose cette année que Dieu a déposé sur mon cœur que j'ai tellement hâte de commencer à communiquer. Le dimanche de Pâques, je vais débuter une nouvelle série dimanche prochain, une série qui s'intitule « Les quatre promesses de la résurrection ». Et nous allons regarder ensemble, il va y avoir une table qui va avoir été préparée, la table de la Pâque juive. Je vais expliquer la signification et surtout qu'il y avait 4 coupes, 4 promesses que Dieu a faites du début des temps jusqu'à aujourd'hui. Les 4 promesses de Dieu pour la libération, pour la guérison, pour l'épanouissement de chaque être humain. Et on va commencer le message dimanche prochain, mais il va se continuer. Les 4 promesses vont être expliquées, vont être communiquées pendant tout le mois, la fin avril et le mois de mai et le mois de juin. Alors, il y a plein de gens, on prie qu'il y ait plein de gens qui viennent à Pâques et qui soient l'intérêt, le Seigneur va toucher leur cœur et par la suite vont venir et on va avoir un baptême d'eau le 21 au 23 juin. On vient d'avoir notre premier baptême d'eau de l'année au mois de mars. On a eu 52 personnes qui ont passé par les eaux du baptême et je déclare par la foi encore plus d'âmes la fin de semaine du 21, 22 et 23 juin. Voulez-vous applaudir à l'avance ce que Dieu va faire? Les adultes, oui, mais si vous avez des membres de vos familles qui ont des enfants, il y a, la Ligue a préparé un programme extraordinaire. On a un invité qui est le favori des enfants, Philippe Chartres, un marionnettiste exceptionnel. Les enfants le trouvent extraordinaire et il va avoir toute une présentation. Alors, que vos enfants puissent inviter leurs amis, il va avoir aussi... Puis je le dis en dernier parce que je sais que c'est pas pour ça que vous venez, mais on prépare que dimanche prochain, 4000 personnes et plus, chaque personne va recevoir du chocolat en rentrant. Ici, 4000 chocolats sont en train d'être préparés et à la sortie, chocolat chaud et toutes sortes de gâteries. Les enfants vont avoir des sacs de bonbons. Dites à la personne près de vous, je sais que c'est pas pour ça que tu viens. Dites ça à la personne près de vous. Mais dimanche prochain, Pâques, c'est plus que du chocolat. On va avoir un dimanche extraordinaire. Et juste, j'ai mentionné la série qui va aller jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Et on sait déjà, je vous le dis à l'avance, on prépare déjà la série d'été à Nouvelle-Vie, juillet et août. Tous les communicateurs, communicatrices, l'équipe de prédicateurs, prédicatrices de Nouvelle-Vie va joindre à moi. Et au mois de juillet et août, notre thème pour l'été va être guérison. Pendant tout l'été, nous allons communiquer la guérison en Jésus, la guérison, comment il guérit encore aujourd'hui, comment aller chercher la guérison, que ce soit physique, mentale, psychologique, spirituelle, émotionnelle, relationnelle, guérison de dépendance, guérison du passé. Il est le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puis je ne sais pas comment vous faites pour ne pas avoir dit « Amen » au milieu de cette séquence-là, Nouvelle Vie. Dites à quelqu'un près de vous, il ne faut pas manquer un dimanche dans les prochains trois mois. Dites ça à quelqu'un près de vous. Et ce matin, c'est suivre Jésus dans la résurrection. Suivre Jésus dans la résurrection, c'est important pour nous-mêmes. Même une semaine avant Pâques, c'est important de se rappeler pourquoi l'ange a roulé la pierre. L'ange a roulé la pierre, nous dit les évangiles. Non pas pour que laisser Jésus sortir, l'ange a roulé la pierre pour que nous puissions entrer dans la résurrection. Qu'on puisse vivre et expérimenter la résurrection. Le texte est puissant dans Matthieu 28, 5 à 7. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, entrez et voyez. Et par la suite, allez promptement le dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Ce verset est formidable de pertinence, c'est tellement proche encore de notre réalité aujourd'hui, 2000 ans plus tard, parce qu'encore aujourd'hui, remarquez que le texte commence avec « pour vous, ne craignez pas ». Et c'est tellement proche de nous, tellement réel pour nous, parce qu'encore pour nous aujourd'hui, même comme croyants, il nous arrive d'avoir peur de la résurrection, de craindre la résurrection. De craindre que Dieu, on s'est habitué à quelque chose, de craindre que la résurrection de l'amour, de craindre la résurrection du pardon. Non, je veux pas, j'ose pas. Craindre la résurrection d'un mariage, d'une relation, d'un couple, d'une famille. Craindre la résurrection de toi. Non, ça m'a fait trop mal, je veux pas retourner là. Il y a des gens qui sont ici, vous êtes chrétiens de longue date. Et vous pouvez en venir à craindre la résurrection de votre zèle, de votre passion. Il y a eu un moment dans votre vie où votre cœur était tellement passionné à servir Dieu, à tout donner pour lui. Il y a des situations qui sont arrivées, qui ont fait en sorte que vous êtes un peu éteint, un peu assis. Puis il y a presque une crainte de la résurrection. Et cette crainte dans la Bible nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Et cette crainte-là est le pire voleur. Cette crainte est un avorteur. Cette peur est un avorteur des plans et des desseins de Dieu. Et nous commençons ce matin en disant, « Seigneur, je ne crains pas ta résurrection. Viens prendre ma vie et viens ressusciter tout ce qui doit être ressuscité en moi au nom de Jésus. » Est-ce que vous dites oui? Encore aujourd'hui, plusieurs cherchent aussi à limiter la foi chrétienne au Jésus crucifié. Vous avez remarqué que le ciel a dit, « Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Et encore aujourd'hui, dans notre société moderne, il y a plein de gens qui essaient de réduire Jésus à une philosophie, les évangiles, une bonne nouvelle, une bonne morale, un révolutionnaire Jésus, un homme bon, un philosophe, une voix parmi d'autres, une tradition, une religion, essayer de le réduire à Jésus crucifié, à un bijou dans le cou, à un patrimoine historique, à l'Assemblée nationale, à une croix, à un objet, un crucifix, à mettre dans une autre pièce à l'Assemblée nationale ou à mettre dans une autre pièce en retrait dans nos vies. mais nous ne réduirons jamais et vous ne devez jamais laisser Jésus être réduit à Jésus crucifié. Il n'est pas seulement Jésus crucifié, il est Jésus ressuscité. Il est vivant, il agit et cette résurrection est vivante dans nos vies aujourd'hui. La résurrection du Seigneur est vivante. Encore aujourd'hui, le ciel nous appelle à entrer, à voir et expérimenter la résurrection. Venez, entrez et voyez la résurrection. C'est une des promesses de la Bible que je ramène à chaque année, à Pâques, elle vibre dans mon cœur. Elle n'est pas seulement pour Pâques, elle est pour toute l'année et pour chaque situation. L'apôtre Paul a dit, « Si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en vous, il vous redonnera la vie. » Littéralement dans le grec, « il vous ressuscitera ». J'aimerais dire que nous marchons avec cette confiance que Pâques, c'est la possibilité que quoi que ce soit qui est mort en moi soit ressuscité par la main de Dieu. La joie est morte en moi. Il veut ressusciter ma joie qui a pu avoir été perdue, ma paix, ma foi, ma confiance, l'amour, la capacité à me donner. Il est le Dieu de la résurrection. C.S. Lewis a dit, la résurrection, c'est l'inverse, c'est la mort à l'envers. La mort œuvre en nous de jour en jour jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on s'éteigne. Lorsque tu deviens chrétien et tu laisses l'Esprit de Dieu habiter en toi, la résurrection, à chaque jour de ta vie, si tu laisses l'Esprit de Dieu agir, tu le désires, tu la recherches, tu la poursuis, la résurrection fait son œuvre dans ma vie, dans chaque saison de ma vie, ressuscite ce qui est mort en moi, de résurrection en résurrection, jusqu'au jour où cette enveloppe s'éteint, et là, c'est la résurrection entière, avec Dieu, avec lui, pour l'éternité, vous devrez dire amen, c'est la résurrection. Encore aujourd'hui, il nous appelle à annoncer la résurrection. Non seulement venez, entrez et voyez, mais allez promptement dire. Allez promptement annoncer qu'il est ressuscité. C'est ce qu'on va faire toute l'année, mais c'est ce qu'on va faire le dimanche matin prochain. Alors, une première question dans ce message, avez-vous quelqu'un que vous invitez, que vous savez en ce moment, que vous travaillez à inviter pour Pâques? Si je traverse les allées, je vais vous demander c'est quoi les noms de personnes que vous invitez pour voir, avez-vous quelqu'un? Deuxième question, est-ce que ça fait combien de temps que vous n'avez pas partagé votre foi? Juste parler à quelqu'un de la résurrection, annoncer à quelqu'un la résurrection. Ce n'est pas seulement quelque chose qui se fait le dimanche à l'église, que vous soyez assis dans la salle ou que vous soyez le pasteur sur l'estrade. Le dimanche, la fin de semaine dernière, j'étais en Floride pour aller faire le mariage de la fille de Pasteur Mark qui mariait un bon garçon là-bas. En Floride, on était là-bas. Et à l'aéroport, en arrivant dans le taxi, le chauffeur commençait à me parler, vous êtes ici, pourquoi? Pourquoi un mariage? Je suis un pasteur. Et là, il commençait à me dire tous ses déboires avec sa religion. Et là, je me suis mis à lui témoigner dans le tour. On était rendu à l'hôtel, on était arrêté, je continuais à lui parler. Puis lorsqu'on est sorti, elle a dit, merci, priez pour moi. Et dans le taxi, en revenant au Québec, le lundi à 1h du matin, tout le long de la route, on arrive à la maison. Et puis, 1h du matin, Chantal rentre avec les deux petites valises. Moi, je sors avec le chauffeur de taxi, on sort les grosses valises. Puis, il me pose la question, un ami libanais, puis il me dit, est-ce que vous êtes docteur? Je ne sais pas pourquoi est-ce que pensait ça, j'ai peut-être une valise un peu de docteur. Non, je ne suis pas docteur, je n'ai pas le salaire de docteur. Est-ce que vous êtes docteur? J'ai dit, non, je suis pasteur. Et là, je pensais des fois ça décontenance. Non, il se met à me raconter tous les problèmes, les difficultés de sa vie, etc. Et là, je lui parle du Seigneur, je lui parle de l'Évangile, je l'invite le dimanche matin de Pâques. Je dis, Pâques, on est ici. Et finalement, vers la fin, j'avais cette pensée dans mon cœur. Je dis, voulez-vous que je prie pour vous tout de suite ici maintenant? Elle dit, ah oui, s'il vous plaît, priez pour moi. Alors, et mon épouse, elle rentre dans la maison, et 15 minutes plus tard, je ne suis pas encore rentrée. Elle regarde dehors, et là, regarde dans le stationnement. Et 1h du matin, dans le stationnement, en train de prier avec le monsieur. Et j'ai eu une pensée parce qu'on a déménagé là. Récemment, j'ai plein de nouveaux voisins et j'ai eu un flash d'un nouveau voisin, peut-être qui regardait par la fenêtre à 1h du matin et dit, chérie, il est spécial, là, ce voisin-là, avec le chauffeur d'ailleurs. Hier, j'étais au gym sur l'elliptique et tout à coup, un monsieur à côté de moi, et, 15 ans de plus que moi, mais en top shape, crinière blanche et puis en forme, puis il commence à me jaser. Et puis moi, j'ai dit, j'aime ça venir la fin de semaine, j'aime là, samedi, dimanche, il y a moins de monde, j'aime ça. Il dit, je vous ai déjà vu. Il dit, je vous ai vu des fois, comme aujourd'hui, samedi. Il dit, je vous ai jamais vu un dimanche. Je disais, non, j'ai dit, le dimanche, moi, je vais à l'église. Il est presque tombé en bas de son elliptique. Comment ça, vous allez à l'église? Il dit, à tous les dimanches. Je dis, oui, je vais à l'église à tous les dimanches. Il dit, à l'église catholique? Je dis, non, l'église chrétienne évangélique. Puis là, je commence à commencer à vouloir y expliquer une nouvelle vie. Il connaissait déjà, ah oui, à côté du, oui, je connais ça, je connais du monde qui va là. Il dit, vous y allez à tous les dimanches? Je dis, oui, je vais à tous les dimanches. J'ai pas dit ce que je faisais dimanche là encore. Là, j'ai dit, dimanche matin de Pâques, 9h, 11h30, voulez-vous venir? Il dit, ah, je pense que je vais vous prendre au mot. Alors, s'il est ici dimanche matin prochain, il va voir que son compagnon d'elliptique, il vient vraiment à l'église à tous les dimanches. Voulez-vous applaudir ce que Dieu va faire à travers nous tous alors que cette semaine, on va aller annoncer promptement qu'il est ressuscité? Une raison pour laquelle parfois on est un peu en panne, on est un peu en panne sèche ou en ralentissement de notre cœur ou notre zèle ou notre courage de partager notre foi, c'est qu'on a besoin nous-mêmes d'un rafraîchissement sur ce que la résurrection signifie réellement pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, avant de l'annoncer à des milliers la semaine prochaine et toute l'année, on va regarder ensemble à l'Évangile de Marc chapitre 16 et je veux simplement vous inviter à venir, entrer, venez. Venez encore, mais comme si c'était la première fois que vous soyez tout nouveau, comme tous ceux qui sont là pour les premières fois, ou ceux qui sont là depuis des décennies à marcher avec le Seigneur. Venez et voyez, entrons ensemble dans la résurrection. Marc chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, le dimanche, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, très lourde, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis, à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. » Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Et elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Entrer dans la résurrection, suivre Jésus dans la résurrection. Juste un rappel ce matin que la résurrection, c'est une réalité qui est invisible. La résurrection, c'est un rappel et un refus parce que nous servons le Dieu de l'impossible. Et la résurrection, c'est un rendez-vous et une invitation qui est illimitée. La résurrection, c'est une réalité invisible. Les gens qui sont hors de la foi chrétienne ont souvent une mauvaise perception de la nature de notre foi comme chrétien. Ils pensent que la foi, j'ai lu deux articles cette semaine, ça m'a frappé, deux articles qui faisaient allusion à ça. Ils pensent que notre foi est une question d'imagination, que les chrétiens sont en fuite de la réalité et essaient de vivre dans un monde imaginaire, un monde de déni. Le christianisme n'est pas une question d'imagination. Le christianisme est une question de révélation. Ma foi n'est pas un déni de la réalité. C'est que j'ai fait la découverte de la réalité, d'une réalité encore plus profonde, d'une réalité invisible, d'une réalité qui est vivante, qui est active, une réalité qui guide ma vie, la réalité de Jésus-Christ qui est ressuscité. Je ne suis pas en déni de la réalité matérielle et terrestre. J'ai une révélation, je connais, j'expérimente une réalité encore plus profonde, encore plus réelle, encore plus active et vraie que Dieu désire offrir à chacun, ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui la connaît ici ce matin. La première dimension, lorsqu'on parle de la résurrection, il y a une dimension il y a des réalités qui sont invisibles. Sa vie est réelle, son espoir est réel, son action dans nos vies est réelle. Le pardon qu'il nous donne est réel. La capacité surnaturelle pour ceux qui le laissent agir de pardonner d'autres est réelle. La joie qu'il donne, la paix qu'il donne à travers les épreuves est réelle. Je ne sais pas comment vous faites pour faire ce segment-là sans dire amen, le segment au complet. Je pars une semaine, je ne vous reconnais plus une nouvelle vie. J'ai dit, sa joie est réelle, sa paix est réelle, son amour est réel, son action est réelle. Dans le combat spirituel et dans la marche avec Dieu comme peuple de la résurrection, il y a des réalités spirituelles qui nous confrontent. Nous nous identifions à ces femmes, et la réalité du combat spirituel qu'ils vivaient, la réalité de nos fuites, la réalité de nos frayeurs. C'est fascinant de voir que comment, comme nous, la Bible nous dit qu'elles ont sortir, elles sont dans le lieu de la résurrection, mais elles sortirent du sépulcre et elles s'enfuirent. La question de l'esprit pour chacun d'entre nous, la question de Dieu pour toi, pour moi, c'est qu'est-ce que tu fuis ce matin? Parce que souvent, même si nous servons le Dieu de la résurrection, il y a ces saisons parce qu'elles ne comprennent plus ce qui se passe, parce que tout est hors de leur contrôle, parce que rien n'arrive comme elles pensaient. Elles sont en fuite. Il est plus que possible, il va arriver à chacun d'entre nous d'avoir cette tentation juste de fuir. De fuir son amour, de fuir son appel, de fuir les engagements que nous avons pris, de fuir les alliances qu'on a prises, de fuir la volonté de Dieu pour nos vies, de fuir ses promesses, de fuir le pardon, de fuir l'appel, la destinée qu'il a préparée pour chacun d'entre nous. Elles étaient en fuite. Elles étaient en fuite parce qu'elles avaient... Et la réalité de nos fuites sont enracinées dans nos frayeurs. Le verset dit, elles sortirent, on l'a lu ensemble, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur peur et de leurs effrois. Je me demande, et avec amour, douceur, tendresse et tout son amour, toute sa connaissance de ce que tu traverses, Dieu demande ce matin, est-ce qu'il y a des choses qui te font tellement peur que tu ne peux même pas en parler? La Bible dit, ils n'ont rien dit tellement, ils avaient peur. Ces angoisses, ces peurs qui deviennent paralysantes, qui sont plus que des inquiétudes, une peur qui infecte ton être tout entier. Ça peut être une peur pour toi-même, une peur pour quelque chose qui est arrivé, une peur pour tes enfants, tes petits-enfants, une peur pour ton présent, pour ton avenir, une peur pour qu'est-ce qui va m'arriver, peur de la solitude, peur de la maladie, peur de choses que... c'est une peur qui est pire que des inquiétudes, une peur qui infecte mon être entier. Une peur qui m'isole, une peur qui est intérieure. Je garde l'image, je protège l'image, mais comme elle, j'ai à peine capable d'en parler. C'est une peur où Dieu semble maintenant invisible, parfois nous semble insensible, où Dieu semble immobile, où la situation semble irréversible. La peur de l'échec, la peur de donner, la peur de me donner, la peur de pardonner. Donner, la peur de recevoir, la peur de risquer d'aimer à nouveau, la peur de le servir, la peur de lui faire confiance ou de faire confiance. Leur peur les a amenés ces femmes, la réalité de leur fuite enracinée dans leur frayeur parce qu'ils étaient affaiblis parce que leur rêve et leur relation avaient été brisés. Ces femmes-là sont arrivées comme nous. Il y a des moments dans nos vies où elles ont, lorsqu'elles arrivent dans le tombeau vide, elles marchent, elles sont dans cette saison de leur vie où elles se retrouvent à l'endroit où leur rêve est mort. Leur rêve est mort. On a suivi Jésus, il est le Messie, il va emmener et là, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Et ils se retrouvent à un lieu où leur rêve est mort et un lieu où elles sont cruellement seules et où ceux qui devraient être là avec eux les ont abandonnés. Parce que moi, lorsque je regarde et que je lis qu'il y avait Marie, il y avait Marie de Magdala et il y avait Salomé, trois femmes qui sont là, j'ai une question à poser, j'ai le goût de crier, où sont les hommes? Où sont les boys? Où sont les 11 disciples? Où est Pierre? Pierre, je m'en ai dit Pierre la grande gueule, mais on ne peut pas dire ça dans une église. Où est Pierre qui a crié fort? Les autres te trahiront, mais moi, je vais mourir pour toi. Où est Jean qui se nommait lui-même celui que Jésus aimait? Où est Jacques? Où sont-ils? Il y a une place qui est particulièrement, une place qui nous affaiblit dans nos vies, une saison dans nos vies qui nous affaiblit. Lorsque le rêve semble mort et lorsque ceux qui résident avec moi m'ont cruellement laissé. Mais dans ce moment-là, la résurrection, c'est l'annonce de Dieu que ça ne finira pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Quelqu'un devrait dire oui. Il y a la réalité de nos frayeurs, de nos fuites. Mais il y a la réalité de notre foi lorsque nous sommes même à notre plus faible. La résurrection, c'est la réalité invisible de notre foi. La réponse de notre foi face à la frayeur. La résurrection, c'est notre foi qui dit « ça ne finira pas comme ça ». ce n'est pas la fin. L'histoire n'est pas terminée. Laissez l'Esprit de Dieu parler à votre cœur ce matin. Dieu te parle à toi personnellement, au milieu de milliers de personnes à Nouvelle Vie, dizaines de milliers par Facebook Live. Dieu te dit ce matin, ça finira pas comme ça. Celui qui a commencé une bonne œuvre va l'accomplir. Il y a une résurrection au-delà de tes frayeurs et de tes fuites. Va-t'en pas, lâche pas, accroche-toi. Ça finira pas comme ça. J'ai fait une étude, j'ai commencé à traverser l'évangile de Marc et je regardais un pattern à chaque fois que tu retrouves le mot frayeur. La frayeur n'est, avec Jésus, la frayeur n'est jamais la fin. Il y a toujours quelque chose de l'autre côté de la frayeur pour celui qui s'accroche avec foi dans la résurrection et la vie. Je traversais les évangiles et je voyais cet homme dans Marc chapitre 5, l'évangile de Marc, le même évangile, mais le chapitre 5 qui est tellement captif, il est tellement lié, il est démonisé, il est pris de tous les côtés, perdu complètement le contrôle de sa vie. Peut-être que tu connais quelqu'un comme ça. T'as perdu le contrôle de sa vie complètement, tellement que la Bible nous dit que tous ceux qui le regardaient étaient remplis de frayeur. Et il nous arrive comme parents, il nous arrive dans cette situation de nos vies d'avoir peur pour nous-mêmes, d'avoir peur pour d'autres. Mais Jésus dit à cet homme, ça ne s'arrête pas là, c'est pas fini pour toi. Jésus avait une main de libération pour cet homme, c'était pas fini pour lui. C'est pas fini pour toi, ça finira pas comme ça. Je suis la résurrection et la vie. Et immédiatement après, il y a une femme qui, elle, et la Bible la décrit comme étant tremblante de frayeur, tremblante de peur. Elle a une maladie, il y a une perte, un issue de sang, une perte depuis 12 ans, tout ce que les médecins peuvent faire, tout ce que l'homme a de mieux à lui offrir, la science a de mieux à lui offrir. Et elle est au bout de toutes ses ressources, elle est tremblante de peur. Mais Jésus lui dit, son histoire ne finira pas comme ça. Je suis la résurrection, je suis la vie, j'ai une guérison pour toi et tu vas témoigner de ce que j'ai fait. Quelqu'un devrait dire oui. J'arrive au chapitre suivant. Et dans l'évangile de Marc, et les disciples sont dans une tempête de la catégorie. Vous savez, dans nos vies spirituelles, dans nos vies relationnelles, spirituelles, familiales, c'est vous le genre de tempête, j'ai jamais vécu ça avant. Chacun d'entre nous, je peux vous promettre ceci, tu peux faire 30 ans, 40 ans que tu marches avec Dieu. Tu peux arriver dans la 20, 30, 40, 50, 60 ans de ta vie. Et tout à coup, j'ai jamais fait face à quelque chose comme ça de ma vie. Les disciples ont marché avec Jésus année après année, mais surtout dans une tempête comme ils n'ont jamais vécu auparavant. Et je parle à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin. Tu vis quelque chose que tu ne pouvais pas imaginer, que tu n'as jamais vécu auparavant. Et Jésus arrive sur la terre et marche sur les eaux et leur dit, ça finit. Ça finira pas comme ça. Ton histoire ne finit pas ici. De l'autre côté de cette tempête, il y a un rivage de ma bénédiction et de mon action parce que je suis la résurrection et la vie. Voulez-vous commencer à dire à voix haute avec moi, ça finira pas comme ça? Et là, je regarde le Fils de Dieu lui-même dans l'évangile de Marc juste avant la crucifixion. Le Fils de Dieu lui-même à Gethsémani. Et la Bible nous dit qu'il était rempli de crainte, rempli d'effroi. Seigneur, c'est possible, la crucifixion s'en vient d'éloigner la coupe. Parce que la Bible nous dit qu'il s'est incarné, il a porté toutes nos expériences humaines. Nos peurs, ces moments dans nos vies où vous et moi avons dit, Seigneur, j'ai tout fait pour te suivre, j'ai tout fait pour marcher avec toi et pour toi. Est-ce que je vais finir sur une croix? Si en ce moment tu te penses, tu te sens sur une croix, la croix c'est vendredi, mais dimanche s'en vient. Et après, ça ne s'arrête pas à la croix, l'histoire ne finit pas là, ça ne finira pas comme ça. Il y a la résurrection, quelqu'un devrait dire amen. La résurrection, c'est une réalité invisible. Et la résurrection, c'est un rappel, quelque chose que je veux juste nous rappeler ce matin. Et le refus d'abandonner... parce que nous servons le Dieu de l'impossible. Lisez avec moi le verset 3 à 6. Elle se disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était grande, immense, et était si lourde, avait été roulée déjà. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où il l'avait mis. La résurrection... c'est un rappel de ne jamais abandonner. Je refuse d'abandonner parce que je suis rappelé que nous servons le Dieu de l'impossible. Ils ont posé la question qu'on se pose chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de notre vie. Qui va nous rouler cette pierre Avez-vous déjà vécu ou est-ce que vous vivez en ce moment une saison où il y a un obstacle là, qui est juste incontournable? Il y a un obstacle. Moi, là, par mes forces, je ne peux pas. C'est impossible. Je ne vois même pas de l'autre côté. Qui peut rouler cette pierre? Il y avait un obstacle incontournable. Mais la résurrection, c'est le rappel et le refus d'abandonner parce que Dieu a déjà roulé la pierre pour laquelle tu te tourmentes et tu t'inquiètes en ce moment. Parce que l'évangile de Matthieu, il faut que tu regardes les quatre évangiles ensemble et tu fais le synopsis ensemble. Et là, tu peux faire la chronologie et tu peux faire le collage. Et littéralement, dans la chronologie, pendant qu'elle, elle marche, c'est très, très tôt, là, il est 4h, il est 5h du matin, avant que le soleil se lève, pendant qu'elle marche en s'inquiétant, comment est-ce que je vais sortir de ça? Comment est-ce que je vais me sentir? Comment est-ce que je vais passer à travers ça? Comment est-ce que je vais passer à travers cette épreuve? Comment est-ce que je peux rouler cette pierre? Comment? Qui peut faire? Pendant qu'elles étaient en train de se tordre les mains et le cœur d'inquiétude, La Bible nous dit dans Matthieu 28, 2, et voici, il y a un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. J'aimerais t'annoncer, bonne nouvelle de Pâques, la résurrection, c'est qu'il y a déjà un ange en route pour rouler la pierre pour laquelle tu t'inquiètes. Dieu marche devant toi et la résurrection est pour toi. Je vais le dire de différentes façons pour que ça percute peut-être avec de différentes personnes, avec ton cœur de manière différente. Dans les ténèbres, Dieu travaille déjà ton témoignage. Est-ce que vous savez que Dieu fait certains de ses plus grands miracles dans les ténèbres? Lorsque tu ne vois rien. La fin du sabbat, la nuit, ils sont arrivés avant le lever du soleil. Ils ont marché en se tordant les mains dans les ténèbres, mais Dieu était déjà en train. Dieu avait déjà commencé à accomplir le témoignage. Je dirais de cette façon, pendant que tu marches vers ce qui te semble mort, le maître est en mouvement pour préparer le miraculeux. Dans ta vie, dans tes enfants, dans ton futur, dans chaque situation de ta vie. Pendant que toi, tu marches, et les femmes marchaient vers ce qui semblait être la mort, mais l'ange était déjà là. Je le dirais de cette façon, pendant que ta déception ne laisse jamais ta déception te voler ta destinée. Laisse pas ta déception te voler ta destinée. Vous imaginez ce qu'aurait pu s'ils avaient tourné en chemin? À quoi bon? C'est fini. La déception qu'ils comprennent. Vous imaginez ce qu'elles auraient manqué? Je déclare aujourd'hui ne laisse pas ta déception, quelle qu'elle soit, te détourner du fait qu'il est la résurrection et la vie. Et il a un plan pour toi. Il a une direction devant toi. Je dirais, dernière chose que je vous dirais, c'est pendant que tu angoisses, ton ange est assis sur la pierre parce que Dieu a accompli tout ce qu'il avait annoncé. Est-ce que vous savez ce que « assis » signifie dans le langage biblique? « Assis », c'est la position d'autorité. Depuis leur enfance, ils voyaient l'enseignant s'asseoir et la Bible nous dit qu'après la résurrection, Jésus est assis avec autorité à la droite, comme un roi qui règne. Il est assis. Pendant qu'eux s'inquiétaient, l'ange avait déjà roulé la pierre et était déjà assis sur la situation. Je vous défie de dire avec un sourire à la personne près de vous, ton ange est déjà en chemin. Dis ça à quelqu'un près de vous. Résurrection et la vie. Quand tu penses que c'est la fin, le Dieu de la résurrection veut se manifester à toi dans une autre forme, d'une autre façon. Il y a quelque chose qui m'a touché profondément lorsque je relisais ce texte, pourtant que j'étudie hébraïque depuis toutes les années. Dans Marc 16, versets 12 et 13, après la résurrection, nous lisons qu'après cela, Jésus apparut, ressuscité. Sous une autre forme, à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller l'accompagner. Il revint l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Répétez ces mots dans votre cœur, laissez ces paroles pénétrer votre cœur. Après cela, Jésus leur apparut sous une autre forme. Il y a de ces saisons dans nos vies où Jésus n'a pas agi comme on pensait qu'il était pour agir. Je pensais qu'il était pour agir de cette façon. Je pensais qu'il était pour guérir de cette façon. Voici ce que je croyais. Voici ce que j'étais convaincu. Voici ce que je déclarais que Jésus était pour faire. Et eux se retrouvent au lieu de la résurrection et ne comprennent pas ce qui prend place. Et Jésus leur apparaît et après, il leur apparaît d'une autre façon, sous une autre forme. La maturité chrétienne et suivre véritablement de manière authentique, suivre Jésus avec une foi mature. C'est comprendre que la résurrection, c'est le rappel qu'il n'est pas ici les saisons, les moments, les épreuves, il n'est pas ici de nos vies, ne veulent jamais dire il n'est plus là. L'ange a dit, il n'est pas ici. Puis on a tous vécu des moments où, Seigneur, je pensais que tu étais pour être là, là. Je pensais que tu étais pour être là dans mon entreprise. Je pensais que tu étais pour être là pour me bénir. Je pensais que tu étais pour être là à ce moment-ci de ma vie avec mes enfants ou mes petits-enfants. Voici, je pensais que tu étais pour être là dans ma carrière, là dans mon mariage. Je ne t'ai pas trouvé où je pensais, mais il a réapparu sous une autre forme. Et après 35 ans maintenant pour moi, après 40 ans de marche avec Dieu, puis il y en a des centaines ici, des milliers qui l'ont vécu, vous avez besoin de l'applaudir avec moi parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. J'ai passé d'année en année, quelle que soit l'épreuve, lorsque je pensais qu'il n'y a rien qui se passe comme je pensais, lorsque cette porte semble se fermer, Dieu a toujours une autre façon, a toujours une autre porte, a toujours une autre résurrection, a toujours un chemin de l'autre côté de la pierre. Voulez-vous applaudir? Quelqu'un a besoin de l'entendre. Je vais même me risquer à vous dire ceci. La foi authentique et la maturité chrétienne, le vrai suivre Jésus, c'est la confiance que parfois les plus grandes manifestations de sa puissance s'accomplissent lorsque Jésus n'est pas à l'endroit où je m'attendais, mais je lui fais confiance et il m'éblouit par sa résurrection. C'est lorsque j'étais plus jeune chrétien, je ne le dis pas avec aucun regret ou reproche, mais j'entendais souvent des prédications, lorsqu'on parle de résurrection, j'appelle ça des prédications avec un point final. Jésus est ressuscité, tout est correct, point final, amen. Et c'est vrai pour notre destinée éternelle. Mais moi, comme jeune chrétien jusqu'à aujourd'hui, et quand j'ai commencé dans le pastorat, on entendait, Jésus est ressuscité, et tout est beau, et amen, point final, tu sais, un point. Mais j'ai été entouré de gens dans ma propre vie où la résurrection est là, mais il y a encore plein de situations non réglées, il y a encore plein de combats, il y a encore plein de... Et j'ai réalisé au fil des années de manière tellement profonde que la résurrection, ce n'est pas un point final. C'est trois petits points de suspension. C'est l'histoire n'est pas finie. J'ai autre chose pour toi. Ou en termes modernes avec nos iPhones, c'est les bulles. Vous savez, lorsque vous écrivez à quelqu'un, vous envoyez un message, moi ça m'arrive, des fois, un message important, j'écris à quelqu'un, et puis tout d'un coup, je regarde, oh, il est en train de me répondre, il y a des bulles. Et les bulles, ça veut dire, la personne est en train de me répondre. Des fois, c'est super important, alors tu es comme, j'ai hâte de voir, il va-tu répondre, puis moi, ça peut être pour une affaire de ministère, ou ça peut être quelque chose de... Et je sais que pour d'autres ici, là, ils ont vécu des moments, pasteur de jeunesse vous raconterait, et les jeunes qui sont ici, tu as vécu le moment, il y a une jeune fille à impact, et puis là, tu as dit, je vais m'asseyer, je me risque à y envoyer un petit peu mes sentiments, l'inviter vendredi prochain à quelque chose, j'envoie, qu'est-ce qui va arriver, d'un coup, des bulles, elle est en train de me répondre, et là, t'attends, avez-vous déjà vécu le moment terrorisant lorsqu'il y a des bulles, plus de bulles, les bulles arrêtent. Je veux déclarer qu'avec Dieu, les bulles n'arrêtent jamais. Si les bulles, je le dirai de cette façon, la résurrection, c'est que les bulles annoncent la bénédiction et la bonté de Dieu. Il y a toujours une réponse qui est en chemin, quelqu'un va dire oui. La résurrection, c'est un rappel et un refuge. J'abandonnerai jamais. Je ne veux pas, ne dois pas abandonner parce que ce n'est pas la fin. Je dirais même de cette façon, en terminant, la résurrection, c'est non seulement une réalité invisible et un rappel et un refuge. C'est la résurrection, c'est un rendez-vous et une invitation illimitée. Marc 16, 9, le même texte. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, le dimanche, apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Imaginez-vous d'être sûr, parce que pendant longtemps dans les évangiles, jusqu'à la toute fin, les disciples voyaient, pas compris même la signification du Messie, voyant Jésus un libérateur social, un libérateur politique, un libérateur qui était pour libérer de Rome. Pouvez-vous vous imaginer être sur le comité, on a des élections qui s'en viennent, là, sur le comité de relations publiques, le comité de réélection de Jésus? Et qu'on cherche un porte-parole, quelqu'un là, qui va être la première personne qui va annoncer la résurrection, quelqu'un là, qui a de la crédibilité, quelqu'un là, qui va impressionner les religieux, là. Quel homme politique qu'on peut prendre, quelle personne qu'on peut prendre, le ciel dit, moi je sais exactement qui va être le premier évangéliste, ça ne sera pas un « le », ça va être une « la ». La première évangéliste va être une femme, puis une femme dont on avait chassé 7 démons. Si vous pouvez imaginer, pas difficile à imaginer, vous savez qu'aujourd'hui, à travers le monde, ici, dans notre ville, à travers le monde, il y a des femmes qui vivent et qui ont vécu des des tortures humaines, morales, spirituelles qui ont été pris dans des mains de proxénètes et à travers le monde qui sont traités comme des esclaves qui sont piétinés. À l'époque de Jésus du Nouveau Testament, les femmes n'avaient aucune importance, n'avaient aucune valeur. Jésus est venu restaurer la valeur de la femme et c'était impensable pour eux que ce soit une femme qui soit le premier évangéliste. Et encore pire, une femme qui avait eu sept démons. On ne peut même pas imaginer cette expression-là. Et donc, il avait chassé sept démons. On parle d'une femme qui était complètement hors, qui avait perdu tout espoir pour sa vie. Mais le ciel dit ceci, c'est important pour toi et moi. Une femme rejetée va être la première à annoncer ma résurrection. Une femme qui avait été complètement liée va annoncer la liberté que moi j'offre. Une femme qui avait été dominée va annoncer la délivrance que Jésus donne. Une femme qui avait perdu tout espoir va être la première évangéliste parce que cet évangile est sans limite. Il invite chaque personne, quel que soit son passé, à une transformation par la résurrection. Présidente de la campagne, la femme avec sept démons. Vice-président, allez annoncer, allez dire à mes disciples que je suis ressuscité et à Pierre. Voulez-vous dire à votre avec moi, et à Pierre? Dites-le avec le même ton, et à Pierre. Pierre, oui, allez-vous en Galilée, c'est là que vous le verrez. Comme il vous l'a dit, comme Jésus l'avait annoncé, comme il l'avait prédit. La résurrection, c'est un rendez-vous en Galilée. La Galilée, c'était l'endroit où il y avait eu le plus de miracles. L'endroit où vous lisez l'Évangile de Marc, c'est l'endroit où il y a eu le plus de guérisons, le plus de miracles. Et Jésus dit après la résurrection, rendez-vous en Galilée. Parce que la résurrection, c'est non seulement le ciel qui dit, ça ne finira pas comme ça, ce n'est pas la fin. C'est aussi le ciel qui dit, vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. C'est le refus, la résurrection, c'est le refus catégorique du ciel de toute espèce de nostalgie religieuse. Oh, c'était le bon temps et que c'était glorieux avant. Non, c'est une insulte au caractère de Dieu de penser que le Galilée d'hier va être plus grand. Non, non, allez-vous-en là-bas, vous n'avez rien vu encore. Nouvelle vie, après 25 ans, on a vécu un Galilée de la bénédiction de Dieu. Mais par sa grâce, la résurrection va s'amplifier dans son impact, dans ses miracles, dans son action surnaturelle. Allez en Galilée, j'ai agi, mais je vais agir encore plus. C'est ça la résurrection. Et c'est aussi l'hallucinant rendez-vous illimité et incompréhensible. Allez l'annoncer à mes disciples et à Pierre et à celui qui a trahi et à celui qui s'était vanté le plus et qui a commis le pire échec, à celui qui a pleuré amèrement, à celui qui a maudit et blasphémé pour prouver qu'il ne me connaît pas, à celui qui pense qu'il n'a plus de chance pour lui-même, à celui qui pense que c'est trop tard, trop loin, trop creux, trop, va lui annoncer à lui, va annoncer à celui qui pense qu'il est fini, qu'il n'y a plus d'espoir pour lui, et dis-lui de se préparer. Préparer quoi? Dis-lui de se préparer, parce que dans 50 jours, je vais le remplir de l'esprit de la résurrection et il va prêcher à la Pentecôte. Et c'est lui que je vais choisir avec à côté Marie Magdala, première évangéliste et la première annonciateur de la résurrection va être celui qui a connu le pire échec parce que mon invitation, elle est pour tous. Elle est illimitée. Elle est pour toi. Elle est pour le pire. Elle est pour le pire. Elle est pour celui qui va simplement ouvrir son cœur et sa vie. Vous devriez dire amen. Termine avec ceci, la Bible nous dit que c'est la résurrection, c'est un rendez-vous et une invitation qui est illimitée. Verset 10 et 11, elle alla porter une invitation qu'on doit recevoir pour nous-mêmes et à laquelle on doit absolument répondre et inviter d'autres. Elle alla emporter la nouvelle, Marc 16, 10 et 11, à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et qui pleuraient. Et quand ils entendirent qu'elle leur a dit « Jésus vivant », elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Verset 13-14, elles revinrent l'annoncer aux autres, pendant qu'ils ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Il y a une progression ici. Il y a des gens qui sont affligés et qui pleurent. Ça peut être publiquement, ça peut être sur leur visage ou ça peut être secrètement dans leurs âmes. Et ça produit quelque chose. Ils sont affligés, ils ont été blessés, ils souffrent et ça produit de l'incrédulité. Jésus dit, ils ont le cœur dur. Ils ont le cœur dur, leur cœur est fermé, leur cœur est dur. Ils sont incrédules parce qu'ils ont souffert, parce qu'ils ont pleuré, parce qu'ils sont affligés. Si vous lui demandez, si vous lui permettez, l'Esprit de Dieu, dans ses prochaines heures et jours, va, il le fait déjà, mettre sur votre cœur quelqu'un dans votre entourage qui ne croit pas, quelqu'un qui dit ne pas croire, quelqu'un qui a l'air d'avoir le cœur dur, quelqu'un qui a l'air fermé, quelqu'un qui... Mais la raison est qu'elle a été affligée, elle a pleuré. Les personnes qui ont été blessées très souvent, les personnes qui ont été déchirées, et d'une manière globale dans notre province, les gens qui ont été déchirés et affligés par la représentation de Christ à travers les messagers religieux qu'ils ont connus, qui souvent ont déchiré et ont abusé, répondent souvent à nous. Au message de la résurrection, il est vivant, je l'ai vu, regarde ce qu'il a fait dans ma vie. Leur première réaction à cause de des pleurs, à cause de leur affliction, en est souvent une de dureté, une de fermeture, une de « je ne crois pas ». Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu dit encore « allez par tout le monde, allez faire l'invitation, prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Regardez bien ce qui va arriver. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé. Il était assis à la droite de Dieu et s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est ainsi que depuis 2000 ans, le royaume de Dieu remplit la terre. C'est ainsi que cette église se multiplie jusqu'à des milliers et des milliers d'autres. Ils ont été affligés, ils ont le cœur meurtri. C'était toi, c'était moi. Et alors que les premières fois, et pendant des fois, des années, des gens nous ont parlé, il est ressuscité, nous répondions avec dureté et avec incrédulité. Mais le Seigneur travaillait, le Seigneur travaillait. Travaille, marche devant toi, prépare des cœurs, travaille des cœurs et va par le miraculeux appuyer ton témoignage. Ils vont venir à la résurrection et découvrir le Jésus ressuscité. Voulez-vous dire un dernier grand amen et amen? Hier, j'étais en train de travailler ce point-là, va annoncer aux disciples et Pierre. Puis je méditais sur le fait que « Ah, Dieu, tu vas travailler, il y a tellement de épières, des gens autour de nous que tu vas aller chercher leur cœur. » Pendant que je suis en train d'étudier, hier après-midi, samedi, je suis en train d'étudier, tout d'un coup, un courriel qui rentre, je regarde du coin de l'œil, « Ah, c'est Steve. » Steve qui envoie un courriel pour dire, « Pasteur Claude, on peut-tu se voir avant que je parte parce qu'au mois de juin, je vais me marier, puis regarde tout ce que Dieu a fait dans ma vie, etc. » Et genre, j'étais tellement béni. Parce que ce jeune homme-là, Steve, je l'ai connu, adolescent, grandi avec les choses de Dieu, s'en est éloigné d'une manière horrible, pendant des années. À un moment donné, je l'avais croisé alors qu'il était loin des choses de Dieu, je l'avais croisé puis il m'avait dit, je suis comme mort en dedans. Je suis mort à l'intérieur, il a vécu des déchirements, il a vécu des saisons où ses rêves sont morts, des saisons où il était loin, il était dépendant, il y avait toutes sortes de... Et il y avait des gens qui priaient pour lui, des gens qui lui parlaient, puis il répondait avec dureté, répondait avec un cœur fermé, mais des gens continuent. Sa famille, ses amis, son pasteur, continuaient à prier, continuaient à annoncer, continuaient à aimer. Mais Dieu travaillait, puis une des choses qu'il nous a dit par la suite, puis si je peux dire encourager quelqu'un, ça fait 35 ans que j'entends ça, des gens qui semblent complètement fermés, qu'une fois qu'ils reviennent à Dieu, nous disent, si tu savais comment le Seigneur me travaillait. Tu savais comment le Seigneur travaillait avec eux. Et Steve, aujourd'hui, marche avec Dieu passionnément, est un témoignage pour Dieu, sert Dieu. Et l'année passée, à Pâques, il a fait un petit vidéo, une minute et quelques, un petit vidéo qui nous avait encouragé, nous rappelant ce que Dieu avait fait dans sa vie. Alors, pendant qu'on regarde cette vidéo, avant qu'on aille à un moment de prière ensemble, en déclarant notre confiance en ses promesses, au Dieu de la résurrection, alors que vous entendez ce témoignage pour vous-même ou pour un épierre dans votre entourage qui semble si loin, laissez la résurrection faire son œuvre en vous. Venez, entrez, voyez et annonçons ensemble la résurrection.
La résurrection, c'est aussi, on ne parle pas d'un Jésus au passé, on peut parler d'un Jésus au présent, il est ressuscité, il est là avec nous aujourd'hui. Le pire mensonge qu'on peut croire lorsqu'on est loin de Dieu, lorsqu'on a grandi à l'Église, on comprend l'aspect du pardon, on comprend que Dieu nous aime. On comprend qu'il nous accepte. Mais le pire mensonge qu'on peut croire lorsqu'on est loin de Dieu, c'est que ça ne sera plus jamais pareil. Et quand je parle du plan parfait, c'est que Dieu nous dit que non, il n'y a rien qui change. Et lorsque tu reviens, le plan parfait, il va utiliser tout ce que tu as passé. Il va le rendre miraculeux. Il va t'utiliser pour aider ces gens-là. Moi, le cri de mon cœur, c'est d'aider les gens qui ont vécu une déception, qui ont vécu une perte d'un être cher, une séparation, un événement qui était difficile dans leur vie, qui étouffait la présence de Dieu, c'est de dire à ces gens-là que Jésus vous aime, qu'il n'y a rien qui a changé. Il est là. Oui, ça va être pareil qu'avant, ça va être même mieux qu'avant, parce que Dieu va tout prendre et le rendre miraculeux. Moi, je peux vous dire que parfois, quand on prie, on ne voit pas rien, mais moi, je peux vous dire que je le sens. Mais quand j'étais loin de Dieu, j'étais en Allemagne, partout où j'étais dans le monde, il y a toujours quelqu'un qui se présente sur ton chemin, va venir te dire une parole. Ces gens-là ne savaient pas ce qu'ils disaient, mais moi, je ressentais que c'est Jésus qui me disait « C'est moi qui est avec toi ». Puis j'ai toujours ressenti les prières. Parfois, ça peut prendre du temps, mais ne doutez jamais que Dieu entend vos prières et agit sur ces gens-là. Ça prend du temps. C'est toujours le timing de Dieu. Et puis, oui, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour moi, dont Pasteur Claude, longtemps, mes parents. Et puis moi, la leçon de ça, c'est à cause que j'ai senti les prières, je crois que ça fonctionne, je le fais moi-même aussi. Aujourd'hui, je prie pour tous ceux que j'aime et j'ai un fardeau pour ceux qui souffrent d'être loin de ceux qui ont connu Jésus, qui sont loin, j'ai un fardeau pour eux. Et si je pouvais vous dire une chose, ne cessez jamais de prier. Surtout, ne cessez jamais de croire que ces gens-là vont revenir parce que c'est selon le temps de Dieu. Mais Dieu vous entend et ces gens-là le vivent, vos prières. Moi, j'y vivais. Ça a pris du temps, mais je les ressentais, ces prières-là, puis Dieu l'a toujours agi.
Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever ensemble et vraiment applaudir la résurrection qui nous dit aujourd'hui, ce n'est pas fini. Ce n'est pas... Voulez-vous applaudir? Ce n'est pas la fin. Ça finira pas comme ça. Penchez la tête avec moi ce moment dans votre vie qui peut faire une différence parce que la résurrection, elle est réelle pour toi aujourd'hui. Si tu la laisses agir. Seigneur, on est devant toi aujourd'hui et on dit ici, c'est des résurrections qui me faisaient peur. J'avais peur même que tu agisses dans cet aspect-là de ma vie parce que j'ai peur d'être déçu à nouveau. J'ai peur que tout tourne à rien. Aujourd'hui, je t'offre ce qui est dans ma vie qui a besoin d'être ressuscité. Tu es seulement bonté et amour. Alors je t'offre, je te prie, viens guérir mon cœur blessé. Viens ressusciter ce qui était mort en nous. Seigneur Dieu, je ne fuirai pas. Je ne fuirai pas ce que tu m'appelles à être et à faire. Je ne courrai pas loin de la résurrection. Seigneur, même si je marche vers ce qui semblait mort à mes yeux, je sais que tu es en mouvement, que tu agis, que tu as. Seigneur, je prie pour chacun des hommes et femmes au son de ma voix qui ont une pierre immense devant eux. Et ils avaient abandonné, c'est trop, c'est pas bougeable, c'est pas changeable. Oh mon Dieu, ce matin, nous levons nos cœurs vers toi. Remplis nos cœurs avec cette vision surnaturelle que tu es là et que tu roules la pierre devant nous. Que tu roules la pierre devant nous, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux me confier en tes promesses. Et je te prie non seulement pour moi, je te prie pour des gens au son de ma voix ici ce matin qui peut-être sont dans la catégorie « et Pierre ». Pour moi, c'est trop tard, c'est trop loin, j'aurais jamais pensé que... Et le Seigneur appelle leur nom précisément, personnellement et intimement. Et Claude, et Chantal, et toi, et toi, et toi, et toi. Reçois ce matin l'appel personnel de Dieu. Lève ta tête et ton cœur. Et j'entends ta voix qui me dit, Seigneur, mon fils, ma fille, ce n'est pas la fin. Ça ne sera pas la fin pour toi. Ce n'est pas un point final, c'est des points de suspension. Maintenant, je prépare une œuvre pour toi. Et ce matin, Seigneur, conduis-nous. Nous voulons dire ta fidélité est grande. Nous voulons dire tes promesses sont vraies et ta fidélité est grande. Et nous voulons, Seigneur, déclarer ta fidélité ensemble dans le nom de Jésus. Et le peuple de la résurrection dit un grand Amen et Amen. L'équipe d'adoration, juste avant qu'on peut applaudir ensemble la résurrection.